Voilà, gloire au Seigneur. Bonjour chers frères et sœurs, soyez les bienvenus pour ce culte. On va ensemble se réjouir et ouvrir la parole de Dieu maintenant, puisque on partage sur ce thème de l'autorité depuis plusieurs semaines, l'autorité spirituelle. On veut rappeler peut-être pour ceux qui n'étaient pas là qu'on aborde ce thème sous cet angle des conditions préalables à l'exercice de l'autorité. Donc on a parlé de la confession des péchés, première condition. Ensuite, on a vu la repentance, on a vu l'importance du pardon. La dernière fois, on a parlé de la foi. Et puis, aujourd'hui, j'aimerais terminer, disons, cette série de cinq thèmes préalables à l'exercice de l'autorité concernant l'obéissance. Alors, il y a une question que l'on peut se poser quand on aborde ce sujet de l'obéissance, et on va voir combien c'est important aux yeux de Dieu. Est-ce que nous préférons donner des ordres ou est-ce qu'on préfère se soumettre aux ordres? On préfère se soumettre? Est-ce que c'est vrai? Dans notre nature, on a quand même plutôt tendance à vouloir diriger. Déjà diriger notre vie, faire nos choix, prendre nos décisions. On aime souvent commander. Et on va voir que dans l'œuvre de Dieu, pour avoir une autorité spirituelle, il va falloir se soumettre à Dieu. Sans soumission à Dieu, il n'y a pas d'autorité spirituelle. Quand on a un problème avec la soumission et qu'on n'arrive pas à se soumettre, déjà dans notre vie en général, quand on a un problème avec l'autorité, eh bien ça va nous poser un problème dans notre vie chrétienne. Parce que la grande autorité, c'est Dieu. Et si on n'a pas réglé ce problème de soumission, alors dans notre relation avec Dieu, ça va nous poser aussi des difficultés. On va se rendre compte en méditant l'Écriture que l'obéissance est très importante aux yeux de Dieu, bien plus importante que ce que nous pouvons penser. Certains disent finalement qu'on obéisse à Dieu ou qu'on n'obéisse pas, de toute façon Dieu nous aime quand même. Dans un sens c'est vrai, mais les conséquences ne seront pas les mêmes si on n'obéit pas à Dieu. Et il faut faire attention à cela parce que je vous donne un exemple concernant l'autorité spirituelle. Si on obéit à Dieu, Dieu le voit, il l'approuve. Et le diable le voit aussi qu'il y a un chrétien obéissant et il craint. Et il va en quelque sorte fuir. Mais quand un chrétien désobéit, bien sûr Dieu le voit, il ne l'approuve pas, et le diable aussi le voit, et le diable va pouvoir avoir une autorité sur lui. Parce que mon autorité ne vient pas de moi, mais elle vient de Dieu. Si je ne la reçois pas de Dieu, je n'ai aucun pouvoir sur l'adversaire. On va lire un premier texte dans 1 Samuel chapitre 15, verset 7, un premier passage, où on a l'exemple d'un roi ici qui avait été choisi par Dieu, qui avait reçu une autorité pour gouverner, mais qui avait un problème dans sa vie, c'est la désobéissance. Il s'agit de Saül. 1 Samuel chapitre 15 verset 7. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoie par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes et la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et dit: je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi, il n'observe point mes paroles. Vous pouvez noter, enfin souligner juste cette phrase, il n'observe point mes paroles. On va voir après. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül et on vint lui dire: Saül est allé à Carmel et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès du roi Saül et Saül lui dit: sois béni de l'Éternel. Et voilà la phrase de Saül: j'ai observé la parole de l'Éternel. On voit que c'est le contraire de ce que Dieu a dit au verset 11. Samuel dit: qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends? Saül répondit: ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül: arrête, je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit, « Parle. » Et Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël ? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël ? L'Éternel t'avait fait partir en disant, « Va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites, et tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel ? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ?» Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi des Amalèques, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. » Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, je te rejette aussi comme roi. » Amen. Saül, donc, quand on considère cet homme, il avait été choisi par Dieu pour un service particulier, devait être roi d'Israël, et il avait reçu une certaine autorité. Maintenant, de qui Saül détenait-il son autorité ? Est-ce que Dieu l'avait choisi à cause de sa haute stature ? Il est dit dans la parole qu'il dépassait tout le monde d'une tête. Est-ce que c'est de là que venait son autorité ? Est-ce que c'était à cause de ses paroles ? Est-ce que c'était à cause de sa personnalité ? Est-ce que c'était à cause de ses qualités ? Ce n'était pas à cause de ça, mais c'est que Dieu l'avait choisi et ensuite il l'avait établi. Donc son autorité ne venait pas de lui. Il avait reçu un mandat de Dieu et il recevait les qualifications de Dieu et il recevait l'autorité de Dieu. Seulement, Saül, qui devait non seulement être roi, mais sa descendance était prévue comme ça, que sa descendance devait être dans la royauté aussi, c'était prévu pour Jonathan, etc. Mais il y avait un problème dans la vie de Saül qui n'était pas réglé, c'était un roi désobéissant, ce n'est pas la première fois qu'il désobéit, on est dans 1 Samuel 15, mais ce roi était désobéissant dans sa nature. Seulement 2 ans après son investiture, on le trouve au chapitre 13 déjà, première désobéissance de Saül. Il devait attendre le prophète Samuel, et puis comme le prophète tardait un petit peu à venir, alors il devait attendre 7 jours, et au bout du 7e jour, Samuel n'était pas là, il y a un petit retard. Et là, il a commencé à s'inquiéter. Vous savez, ça me fait penser à des tests. Parfois, on a une date butoir, et puis la chose n'est toujours pas arrivée, et puis nous, on panique, et puis on fait autrement. Là, il aurait mieux fait d'attendre encore un petit peu, mais il a paniqué et il a choisi une autre voie plutôt que d'obéir à la voix de Dieu. Il y avait cette date butoir qui était dépassée, mais quelquefois, Dieu nous place dans des tests pour vérifier si on va obéir ou si on va chercher ailleurs une solution. Autrement dit, Saül n'a pas préféré attendre davantage. Il voyait que les gens commençaient à s'impatienter, commençaient même à l'abandonner. Alors il a décidé de lui-même d'offrir des sacrifices, ce qui était en contradiction avec la parole de Dieu, puisque c'était les sacrificateurs qui étaient habilités à le faire. Et puis lui, en tant que roi, il s'est dit, tant pis, le sacrificateur n'est pas là, peut-être il a été bloqué quelque part, je vais offrir moi-même les sacrifices. Mais là, il était en train de désobéir et de pécher à l'égard de la parole de Dieu. Ensuite, 1 Samuel 15, on a lu cette désobéissance, mais si vous lisez la fin de sa vie, c'est pareil. Un peu plus tard, au chapitre, par exemple, 28, on le voit qu'il va consulter une voyante à Enedor, il a perdu complètement pied, il est allé voir une voyante alors que la parole de Dieu indique qu'il ne faut pas aller chez les voyants et pas faire de divination. Donc, non seulement il était désobéissant, mais en plus il persévérait dans cette voie de désobéissance, dans ce péché. Alors, dans ce texte, quels sont les reproches de Dieu ? D'abord, on se rend compte que Saül n'est pas conscient vraiment de son problème. C'est parfois le cas des croyants qui sont désobéissants. Ils ne se rendent pas vraiment compte qu'ils désobéissent. En tout cas, c'est ce qu'ils laissent entrevoir. Ça me fait penser un petit peu à ces enfants à qui vous donnez... si vous donnez une boîte d'allumettes à des enfants, ils vont jouer avec... Mais ils ne vont pas se rendre compte que ça peut créer des gros problèmes, ça peut mettre le feu à la maison. Ils ne sont pas conscients. Alors, il se croit droit devant Dieu. Hein, il dit au verset 13, on l'a lu tout à l'heure, « J'ai observé la parole de l'Éternel. » Donc lui, il est convaincu que devant Dieu, il n'y a pas de problème. Il a fait ce que Dieu lui a demandé. Sauf que du côté de Dieu, et c'est ça qui nous intéresse le plus, du côté de Dieu, ce n'est pas la même version. C'est au verset 11, « Il n'observe point mes paroles. » Donc, en fait, on peut dire que Saül avait obéi à une partie de l'ordre de Dieu, mais pas la totalité. Donc, quelque part, pour calmer sa conscience, il avait fait, on va dire, les trois quarts, mais il y avait un quart qu'il avait pris une initiative personnelle de ne pas dévouer par interdit le roi, Agag, et puis de ne pas dévouer par interdit les meilleures bêtes du troupeau pour les offrir en sacrifice. Encore une fois, les sacrifices, il avait vraiment un problème avec ça. Et si on peut tromper les hommes et donner une bonne image, parce qu'il restait tout à fait roi hein, dans ce contexte, et puis le peuple le suivait, et ils ont fait tout ce que Saül disait, ils le faisaient. Donc même s'il avait une bonne image à l'extérieur, par rapport à Dieu, dans son cœur, par rapport à Dieu, il y avait un problème, il était dans la désobéissance, et cela ne pouvait pas être approuvé de Dieu. Dieu l'a vu, le diable aussi le voyait, et l'Éternel ne va pas se contenter de notre apparence, parce que ce matin, qu'est-ce qui intéresse le plus le Seigneur ? C'est notre cœur. C'est ça qui compte pour Dieu. Ce n'est pas notre titre, ce ne sont pas nos beaux habits, ce ne sont pas la belle image que nous pouvons avoir. L'Éternel, comme dit la parole, l'Éternel ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. Comment est l'état de notre cœur devant Dieu ? Alors si moi je suis là ce matin et que je donne une bonne apparence, mais que dans mon cœur, il y a des mauvaises pensées, des mauvais sentiments, ben Dieu le voit et il ne peut pas approuver ma louange, il ne peut pas approuver mon adoration. Si mon cœur est rempli d'amertume, si mon cœur est rempli de mauvaises choses que je n'ai pas confessées, que je ne me suis pas débarrassé, comment voulez-vous que Dieu bénisse, que Dieu approuve ? Alors, quels sont les reproches de Dieu ? Premier reproche, c'est au verset 17, c'est l'orgueil. Saül a laissé l'orgueil rentrer dans son cœur. Lorsqu'il était petit, à ses yeux, il est devenu chef des tribus d'Israël. Mais voilà, maintenant, il ne se considère plus comme petit, il se voit roi d'Israël. Et Saül, donc, a chuté dans l'orgueil. En fait, on se rend compte en lisant ce passage, ce verset 17, que Saül n'a pas toujours été dans l'orgueil. Puisqu'à un moment donné, il se considérait humble et petit, à une époque, en tout cas, reculé, mais il a commencé dans l'humilité. D'ailleurs, avant qu'il ne soit choisi comme roi, le texte nous dit qu'il se cachait parce qu'il avait peur de cette grande responsabilité qui était la sienne. Il ne se sentait pas à la hauteur, il n'avait pas les compétences, il ne savait pas comment faire. Mais voilà, petit à petit, il a pris de l'assurance et puis il a fait par lui-même et il est devenu orgueilleux. Et ça, c'est un piège qui guette tous les croyants de devenir orgueilleux. Cela ne plaît pas au Seigneur. Pourquoi ? Dieu ne choisit de travailler qu'avec des gens qui sont humbles et qui sont soumis. S'ils ne sont pas comme Dieu le veut, ben, il va utiliser quelqu'un d'autre. Si on est humble, comme Saül l'était à l'origine, lorsque tu étais petit à tes yeux, eh ben, Dieu peut faire de nous des responsables. N'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël ? C'est-à-dire que Dieu prend des humbles et il les qualifie. Il les sort de leur situation, il leur donne l'autorité et ainsi ils peuvent faire la volonté de Dieu. Premier reproche, l'orgueil. Deuxième reproche, c'est au verset 22. C'est la désobéissance. Et on va voir qu'est-ce qu'est la désobéissance aux yeux de Dieu. Au verset 22, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Donc, la désobéissance de Saül lui est reprochée. Il est évident que Dieu apprécie les holocaustes et les sacrifices parce que c'était dans la volonté de Dieu. Tout l'Ancien Testament, Dieu demandait au peuple d'Israël d'apporter des sacrifices. Mais attention, un sacrifice, qu'est-ce que c'est ? Un sacrifice, ce n'est pas simplement un animal égorgé. Parce que c'est ça qui faisait Saül. Lui, il égorgeait des animaux et les apportait à Dieu. Mais dans la notion de sacrifice, il y a plus qu'un animal égorgé parce qu'il y avait le cœur de la personne qui apportait le sacrifice qui comptait aux yeux de Dieu. Et on le voit bien dans ce texte, si c'est juste, Dieu dit, si c'est juste pour égorger des animaux, il dit, mais moi, je n'ai pas besoin de ces sacrifices-là. Ce que Dieu veut, c'est un cœur contrit, un cœur brisé, un cœur sincère devant sa face. Donc, l'attitude de cœur de Saül était déplorable, et ce qui va compter pour Dieu, ce n'est pas simplement l'extérieur, mais c'est comment nous sommes à l'intérieur, sinon l'offrande ne sera pas agréée. Alors là, on est devant un principe spirituel important, c'est ce que nous sommes compte plus aux yeux de Dieu que ce que nous faisons. Et c'est vrai aussi pour les sacrifices de louange, parce qu'on peut faire une application au Nouveau Testament. Vous savez que dans les Épîtres, par exemple, ou dans le Nouveau Testament, c'est dit « offrez à Dieu des sacrifices de louange ». Donc c'est repris cette pensée de sacrifice. Mais si nos sacrifices de louange ne sont que des paroles, ce n'est pas pour ça que Dieu va agréer. Ce n'est pas simplement parce que c'est une louange que Dieu va l'agréer, mais il faut que le cœur soit aussi impliqué dans notre louange, dans notre adoration, sinon Dieu ne va pas l'approuver. On peut avoir les mots appropriés quand on dit une louange, c'est-à-dire « Seigneur, je t'aime, tu es mon Dieu, je t'adore ». Ça, c'est les mots appropriés pour louer le Seigneur, mais notre cœur peut être loin de ces mots, dans des pensées mauvaises, dans des critiques, des jugements, des idoles même qu'on a dans notre vie qu'il va falloir se débarrasser. Et Dieu le voit tout cela. Et si vous voulez, il y a un tel décalage entre des propos qu'on peut dire et une réalité intérieure que Dieu dit à un moment donné, non, je préfère l'obéissance au sacrifice. Il dira la même chose, je préfère un cœur sincère et obéissant et droit devant moi plutôt que des paroles et des paroles et des paroles qui n'ont finalement pas de réalité profonde dans la vie de telle ou telle personne. Et d'ailleurs, on retrouve cette pensée dans le Nouveau Testament lorsque Jésus dit, il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. La première chose qui est dit, le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Il n'est pas dit de toutes tes louanges, avec toutes tes louanges, avec toutes tes paroles, mais il commence par mettre le cœur en premier. Ensuite, il y a l'âme, les pensées, de toute ta force, etc. Mais cela est valable pour nous. Frères et sœurs, nous devons aimer le Seigneur et le louer de tout notre cœur. Et la priorité est là pour Dieu ce matin. Je vous donne un exemple simple, c'est l'exemple du couple. Lorsque le mari dit à sa femme, je t'aime, tu es la femme de ma vie, je veux passer le reste de ma vie avec toi, etc. Il lui fait une déclaration d'amour. Mais si en même temps dans son cœur, il est amoureux d'une autre femme, bien, et que la femme s'en rende compte, que la femme découvre la chose, eh bien, en réalité, ses paroles, elles vont sonner complètement plat, si vous voulez, ça va même se retourner contre lui. En réalité, il est adultère dans son cœur, les paroles ne changeront rien à sa situation d'adultère, parce que son cœur est ailleurs, son cœur est dirigé vers une autre personne, et ni les paroles, il peut même offrir des cadeaux à sa femme, des bijoux, tout ce que vous voulez, son cœur est adultère, il n'a pas réglé ce problème, tant qu'il n'aura pas réglé cela, il ne pourra pas être en bon terme avec son épouse. Donc voilà un exemple qu'on peut prendre, et c'est pareil pour Dieu, hein. Quelque part l'alliance, on est comme marié, hein. On est engagé pour la vie avec le Seigneur, et si on dit qu'on l'aime avec des mots, mais que dans notre cœur il est ailleurs, bah Dieu le voit, vous voyez, il aurait la même attitude que cette épouse qui se sent bafouée, qui se sent humiliée parce que le mari est trompeur, il a une façade, mais en réalité à l'intérieur, il vit autre chose. Avec Dieu, on ne peut rien lui cacher, frères et sœurs. Il voit tout de nos vies. Il y a quelque chose d'étonnant dans ce passage, c'est quand même à quoi Dieu compare l'obéissance. Et pour nous montrer que l'obéissance est vraiment grave aux yeux de Dieu, il est dit, toujours dans le même verset, « La désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. » C'était quelque chose d'abominable aux yeux de Dieu, bien sûr, c'est la divination, l'idolâtrie, les théraphimes, les faux dieux. Donc ceci pour nous montrer que la désobéissance pour Dieu, c'est très grave et ça nécessite une repentance, un revirement rapide parce que nous nous égarons quand nous persévérons dans la désobéissance. On ne doit pas prendre la parole de Dieu à la légère, ce sont des paroles fortes, mais qui sont tout à fait valables même pour nous aujourd'hui. J'en viens à un troisième aspect dans ce texte, c'est la conséquence de la désobéissance, c'est la fin du verset 23. puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. Voilà la conséquence pour Saül, c'est qu'il avait reçu l'autorité de Dieu pour gouverner, mais dans son entêtement, il a persévéré dans la désobéissance. Alors Dieu lui dit, puisque tu t'entêtes, je te retire ce que je t'avais donné, tu ne seras plus roi d'Israël. Si Dieu donne une autorité, il peut aussi la reprendre à celui qui s'entête dans le péché, qui persévère dans une voie de désobéissance. Il a dit, moi, Dieu, finalement, je le mets de côté, je fais ce que je veux. Eh bien, Saül en a fait l'expérience. Il n'était qu'un homme sans pouvoir particulier. C'est vrai qu'il avait reçu l'onction royale, mais l'onction pour un service et dans les conditions où il était soumis à Dieu. Et il a pris la parole de Dieu à la légère. C'est vrai que Dieu avait dit, il fallait dévouer tout par interdit. Bon, bah, lui, il a arrangé ça. Il a dit, bon, bah, le roi, je vais le mettre de côté. On va laisser comme ça. Et puis les meilleurs animaux, bon, on va s'arranger autrement. On va les offrir à l'Éternel, etc. Il a un petit peu arrangé les choses selon sa volonté. Dieu n'a pas du tout approuvé. Parce qu'on ne peut pas, frères et sœurs, prendre la parole de Dieu à la légère, c'est-à-dire faire des compromis. On dit, oui, c'est vrai, Dieu a dit ça, mais moi, je vais prendre une partie et puis l'autre, je vais faire comme je veux. Cela ne fonctionne pas avec Dieu. Dieu le voit, Dieu n'approuve pas. Saül a perdu son titre. Pardon, Saül a perdu son autorité. Il a gardé son titre de roi encore quelques années, puisqu'il a continué à être roi, en fait, d'Israël, mais ce n'était plus qu'un titre. En réalité, il n'avait plus l'autorité spirituelle. Et quand on regarde la vie de Saül, ce n'était qu'un gouvernement humain. Il a régné de façon humaine. Il avait le titre de roi, mais il n'avait plus la bénédiction de Dieu, l'approbation de Dieu. Tandis que David, c'est le contraire. David avait l'onction, il n'avait pas encore le titre, mais il avait déjà l'autorité que Dieu avait placée sur sa vie. Et à un moment donné, il a eu le titre de roi, roi de Juda, roi d'Israël, mais il a commencé par avoir l'autorité. Ce qui est le plus important, frères et sœurs, ce n'est pas le titre, mais c'est l'autorité. Parce que si on n'a pas l'autorité, on n'a rien du tout. On a beau avoir un titre, roi ou ceci, vous allez dire des titres, on peut être tel ou tel service dans l'Église, avoir un titre, une responsabilité quelconque, ça ne vaut pas l'autorité qu'on reçoit de Dieu. Le plus important, c'était que Saül, il reste dans les voies du Seigneur. Alors ne nous y trompons pas. Dieu n'est pas là à notre service pour nous bénir quand on a besoin de lui, mais c'est nous qui sommes au service de Dieu et nous lui rendrons des comptes. Autrement dit, celui qui commande, ce n'est pas nous, mais c'est Dieu. On le voit très bien avec cette affaire des talents qui a été évoquée dimanche dernier, là, la parabole des talents. Le premier reçoit 5 talents, le deuxième 2 et le troisième 1. Et puis, le maître vient redemander des comptes. Alors, qu'est-ce que vous avez fait des talents? Alors, le premier l'a fait doubler ses 5, il en a 10. Le deuxième a doublé ses 2. Et puis le dernier, il rend des comptes, mais c'est nul, parce qu'il a caché son talent dans la terre. Alors, il ne peut pas dire de bonnes choses de ce qu'il a fait, mais on aura des comptes à rendre à Dieu. Et lui, il était désobéissant. Le dernier, il n'a pas fait fructifier son talent, il n'a pas utiliser tout ce que Dieu lui avait donné. Je citerai un deuxième exemple dans la parole de Dieu pour montrer. Un autre cas, c'est Jonas, dans Jonas chapitre 1, verset 1. Alors, un autre cas qui est bien connu pour sa désobéissance, ce Jonas. Simplement, il a une attitude différente de Saül. On va le voir, car on a dit que Saül a persévéré dans sa désobéissance jusqu'à sa mort, pratiquement peu de temps avant sa mort, c'est là qu'il consultait la voyante, à Enedor. Et tandis que Jonas, lui, il a commencé dans la désobéissance, mais ensuite il est revenu dans l'obéissance et il a obéi tout ce que Dieu lui demandait. Jonas 1:3, juste ce passage. La parole d'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel, et il descendit à Jaffo. Et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. On peut garder la Bible ouverte dans Jonas 1, tout à l'heure on lira un autre verset. Mais d'abord, on voit ici la liberté qu'a Jonas d'obéir ou de désobéir. Et au verset 3, on voit que finalement, il choisit de désobéir. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Donc Dieu lui donne un ordre, tu dois aller tel endroit, et lui, il décide de faire autrement. Jonas n'était pas un simple croyant qui venait juste apporter ses sacrifices, il avait quand même des responsabilités dans l'œuvre de Dieu, puisqu'il était prophète. Qu'est-ce qu'un prophète ? C'est quelqu'un qui doit donner des paroles de Dieu. C'est un porte-parole de Dieu. Il était censé non seulement entendre la voix de Dieu, mais bien la retransmettre et puis obéir à ce que Dieu disait. Ça, c'est le prophète. Et on voit qu'il y a une mission qui lui est donnée, c'est d'aller à Ninive, hein, d'annoncer la parole d'un jugement imminent de Dieu, donc d'appeler les gens à la repentance. Et voilà que cette mission de Dieu ne lui convient pas. Il n'a pas envie de le faire. Pourquoi ? Parce que c'est déjà un peuple ennemi d'Israël. Il va falloir aller jusqu'à Ninive. Il y avait quand même 1000 kilomètres à faire, au moins. Et puis, ce n'était pas les routes comme aujourd'hui. Il fallait tout un temps pour aller là-bas. En plus, ce pays, il n'aimait pas du tout les Juifs, les Hébreux. Donc, c'était difficile d'aller là-bas. Et bref, il y avait mille et une raisons pour lesquelles il n'avait pas envie d'y aller. Mais maintenant, si on est au service de Dieu, comme un prophète, comme l'est et nous qui sommes croyants, alors, qui est-ce qui va décider ce que nous devons faire ? Est-ce que c'est nous qui décidons ou est-ce que c'est Dieu ? C'est Dieu qui décide. Ça ne nous plaît pas toujours, ce que Dieu nous demande, mais en tout cas, c'est lui qui décide. Alors, on a le droit d'avoir notre avis. On a le droit d'avoir un avis personnel et de dire, bon Seigneur, je ne pense pas que c'est une bonne idée d'aller à Ninive, mais on doit y aller quand même, normalement. Ou dire, Seigneur, moi, tu vois, je désirerais plutôt aller dans une autre direction, à Jéricho, une autre ville. Mais finalement, Dieu maintient sa décision. Non, toi, tu dois aller à Ninive. Donc, qu'est-ce que nous devons faire ? Ben, même si on a notre opinion personnelle, finalement, c'est Dieu qui donne les ordres et c'est à nous de nous soumettre à sa volonté. Évidemment, Jonas l'a appris, il le savait déjà certainement, mais il l'a appris d'une manière très forte avec cet événement qui l'a poussé dans la tempête. Jonas avait cette liberté d'obéir ou de désobéir. Alors il a fait son choix, il est parti loin de la face de l'Éternel. Ce n'est pas le premier, ça ne sera pas le dernier. Combien de personnes ont déjà désobéi volontairement à Dieu et combien ils en ont eu des conséquences aussi tragiques dans leur vie. Il a fallu qu'ils reviennent à l'obéissance à Dieu. On a des exemples même avec Moïse. Hein. Quand Moïse l'appelle à aller en Égypte, il n'a pas du tout envie, Moïse, qui était dans le désert là, depuis 40 ans, il n'a pas du tout envie de retourner en Égypte. Il dit à Dieu, envoie qui tu voudras. Et puis Dieu insiste, c'est toi qui vas aller, c'est toi qui vas aller. Et il finit par obtempérer. Et on a la même liberté aujourd'hui, car Dieu a pris le risque d'utiliser des hommes et des femmes pour le servir, avec cette possibilité qu'ils ont de désobéir, d'accepter ou de refuser. Maintenant, c'est vrai que Dieu n'est pas limité à nous. Si moi, je persévère dans une désobéissance, bon ben Dieu peut appeler aussi quelqu'un d'autre. Mais Dieu ne veut pas simplement nous laisser aller dans la désobéissance, il veut nous ramener dans les voies du Seigneur. Comment Dieu va ramener Jonas dans la voie de l'obéissance ? Parce que quand un chrétien obéit, ça réjouit le cœur de Dieu. Vous avez cette parabole que je disais tout à l'heure, là, des talents. À la fin de la parabole, pour ceux qui ont obéi, il est dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Donc, la joie de Dieu. Dieu est dans la joie quand un serviteur a obéi et a fait sa volonté. Alors, comment Dieu va s'y prendre pour ramener Jonas ? Il va y avoir certaines conséquences. Alors, au verset 3, la fin. D'abord, les conséquences de la désobéissance. On voit à la fin du verset 3. Il partit loin de la face de l'Éternel. Donc, la première conséquence pour Jonas, c'est qu'il va s'éloigner de Dieu. Il va s'éloigner. On ne peut pas espérer désobéir à Dieu et rester en communion avec lui. Non seulement il s'éloigne, on va dire physiquement, parce que la volonté de Dieu, c'était d'aller dans une direction, lui, il va dans la direction opposée, mais il s'éloigne spirituellement de Dieu, dans son cœur. Et il prend un risque immense, c'est de tout perdre. Il peut perdre sa communion avec Dieu, il peut perdre son ministère, parce qu'un prophète qui désobéit comme ça, qu'est-ce qu'il va devenir ? Et Dieu va plus l'utiliser. Il peut perdre aussi sa vie, c'est ce qui va risquer de lui arriver dans le bateau. Alors ça, c'est une fuite inutile, parce que personne ne peut échapper à Dieu, et Dieu va le suivre et va le ramener. Une autre conséquence à sa désobéissance, au verset 4, c'est la tempête. L'Éternel fit souffler dans la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Et le voilà au milieu d'une grande tempête. C'est lui le coupable, et puis tout l'équipage, il se trouve mêlé à cette histoire-là. Il y avait le bateau, il y avait la cargaison, il y avait tout. Et rien se passe comme Jonas avait pensé. En fait, cette tempête, ça veut dire quoi ? C'est que Dieu dit à Jonas, tu n'es pas sur la bonne route. Tu devrais t'arrêter, tu devrais revenir là où tu es parti et aller dans la direction que je t'ai indiquée. Parce que Dieu aime toujours Jonas, mais il veut le ramener à des bons principes d'obéissance. Et puis une autre conséquence, on le voit au verset 8, c'est le témoignage de Jonas qui est négatif parce qu'il est obligé de dire qu'il désobéit à Dieu. Verset 8, alors ils lui dirent, dis-nous ce qui attire ce malheur et quelles sont tes affaires, d'où viens-tu, quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel. Vous voyez le témoignage qu'il a, il est plutôt négatif, il est obligé de dire qu'il a désobéi à Dieu. Et même un petit peu avant, il est dit que les gens cherchaient Jonas pour lui demander de prier. Et Jonas, il dormait. Et le patron du navire va le réveiller pour lui dire « Prie ton Dieu au moins pour que la tempête soit apaisée. » Et alors qu'il est prophète, c'était le premier qui aurait dû prier en cette circonstance parce que c'était un homme de Dieu. Lui-même n'a même plus le désir de prier. Et c'est un païen qui va demander à un croyant de prier son Dieu. Donc on voit vraiment que pour Jonas, il est dans un moment négatif hein, où tout est sombre, où il ne prie plus, ça va mal. Une fois qu'il est désigné comme le responsable de la tempête, il avoue tout, mais il va laisser un drôle de témoignage à cet équipage. Il voit là un croyant qui est censé obéir à son Dieu, mais qui fait tout le contraire de ce que Dieu a dit. Alors bref, c'est la confusion. Si notre témoignage, voyez, si on a un comportement qui visiblement est contradictoire avec la parole de Dieu et qu'on va témoigner de l'amour de Jésus, que Dieu a changé notre vie, puis que dans notre vie on fait les mêmes choses qu'on faisait avant notre conversion, il n'y a pas de témoignage. Ça ne peut pas porter de fruits, ça n'a aucun impact. Et ben c'est le cas de Jonas. On ne peut pas apporter la lumière à un monde perdu si nous-mêmes on ne vit pas dans la lumière, si on ne vit pas dans l'obéissance et si on ne vit pas dans la droiture. On a le même exemple de Lot à Sodome. Son témoignage est désastreux parce que finalement il s'est conformé au monde. Et puis ses gendres, lorsque Lot leur dit « Allez, il faut sortir de la ville, tout va être détruit », ses gendres ils commencent à rigoler. Il croyait que c'était une plaisanterie, il n'y a pas d'impact parce que Lot n'était pas vraiment selon la volonté de Dieu à ce moment-là. Alors une autre conséquence, c'est au verset 15, c'est que ce Jonas, il va être jeté à la mer, c'est quand même terrible ce qui lui arrive pour sa désobéissance. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer et la fureur de la mer s'apaisa. Jonas, jeté par-dessus bord, l'équipage ne voulait pas jeter Jonas. Mais comme ils n'arrivaient pas à s'en sortir à cause de la tempête, ils ont jeté Jonas à la mer. Mais le prophète, s'il se retrouve en train de couler, parce que là il va couler dans la mer, c'est à cause de sa désobéissance. Et un peu plus loin, au chapitre 2, cinquième événement qui arrive, c'est le grand poisson qui va l'avaler. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson, 3 jours et 3 nuits. Dieu aurait très bien pu laisser Jonas mourir à ce moment-là dans la mer puisque c'était un prophète désobéissant, il n'avait fait que n'importe quoi et puis il avait les conséquences de ce qu'il méritait. Mais on voit la grâce de Dieu car Dieu ne voulait pas la mort de cet homme, il voulait qu'il revienne à de bonnes dispositions, qu'il revienne à l'obéissance. Alors il va lui donner une deuxième chance. Attention, il ne faut pas non plus abuser de toutes les chances que Dieu nous donne. La deuxième chance, il l'a saisie. Cette deuxième chance, c'était 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. C'est sûr que là, il n'avait pas l'occasion de se distraire. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait que la prière. Il était dans le ventre du poisson et c'est là qu'il a parlé à Dieu. En fait, c'est là qu'il est revenu à Dieu, dans la prière, dans la repentance. Et c'est là qu'il a dit, bien, j'irai là où tu m'enverras. Et effectivement, quand le poisson l'a rejeté sur la rive, il est allé à Ninive. Et pour terminer, on voit les conséquences de l'obéissance maintenant, chapitre 3, verset 5. Puisque Jonas a obéi, les gens de Ninive crurent à Dieu et ils publièrent un jeûne et revêtirent le sac depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Alors on voit que après qu'il ait prêché la parole, il a annoncé ces choses exactement comme Dieu a dit, il s'est soumis, toute une ville a été touchée par la grâce de Dieu, ils ont tous été sauvés et cela venait de l'obéissance d'un seul homme. On sous-estime souvent les fruits de l'obéissance, mais simplement parce qu'on a obéi à Dieu, il y a une âme qui va être sauvée, il y a quelqu'un qui va passer de la mort à la vie, il y a quelqu'un qui va être guéri, il y a quelqu'un qui va être délivré, etc. etc. Simplement parce qu'une fois, on a obéi au Seigneur. Vous voyez comme c'est important, l'obéissance. On a un bel exemple de Philippe dans le Nouveau Testament. Philippe qui reçoit une parole de Dieu, va sur ce chemin désert. Il a obéi, simplement sans tout comprendre exactement pourquoi il devait y aller, mais Dieu avait tout prévu. Et du fait que Philippe était là, lorsque l'eunuque est passé, il a été évangélisé, il a été sauvé. L'obéissance dans notre témoignage. L'obéissance va permettre le salut de plusieurs personnes. Il y a un autre texte qui nous montre aussi l'obéissance, c'est dans Actes chapitre 5, c'est l'exemple de Pierre. Actes chapitre 5 et au verset 26. On a là un problème pour Pierre, les apôtres, parce qu'ils sont en prison à cause de leur foi, ils annoncent Jésus. Alors, acte 5, 26, le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là, c'est-à-dire au nom de Jésus ? Et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous en sommes témoins, témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Alors, Pierre, ici, va ressentir la pression du monde. C'était « Vous n'annoncerez pas la parole de Dieu, c'est interdit. » Ça, c'est ce que les Juifs ont dit à Pierre. Et pour nous, c'est pareil, parce qu'il y a une certaine pression, une intimidation qui voudrait nous empêcher de témoigner, nous empêcher de dire aux autres notre foi sous prétexte de laïcité, etc. En fait, on ne vous encouragera jamais à témoigner, on ne vous encouragera jamais à vivre votre foi. Mais voyez l'impératif de Pierre, et c'est ce verset que j'aime bien parce qu'il met bien en avant l'obéissance. Pierre, c'est au verset 29, « Il faut obéir à Dieu ». Pierre utilise ce terme « il faut », c'est-à-dire c'est un impératif, c'est une nécessité, quand bien même le monde se détourne de Dieu, pour nous qui sommes croyants, il faut obéir à Dieu. C'était un principe dans sa vie. En quelque sorte, lui-même, il refuse la possibilité de désobéir. Il dit « Pour moi, il faut obéir à Dieu ». Alors, il prend le risque, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, peu de temps avant, il avait été enfermé. Un ange était venu les délivrer, ils étaient sortis de prison. Ils étaient retournés annoncer la parole de Dieu. Mais ils prenaient un risque, parce que s'ils obéissaient à nouveau à Dieu, ils savaient qu'ils allaient avoir à nouveau des problèmes. Mais ils ont dit « Il faut mieux obéir à Dieu et avoir ce genre de problème plutôt que de désobéir à Dieu, parce qu'on a vu toutes les conséquences avec Jonas, etc. » En plus, pour terminer ce passage, il y a la promesse. Voyez, le Saint-Esprit est donné à qui ? Il est précisé à ceux qui lui obéissent. Donc, là encore, on a un enseignement. Le Saint-Esprit n'est pas donné n'importe comment à n'importe qui, mais il y a une notion d'obéissance. Et l'obéissance va précéder l'onction, l'onction du Saint-Esprit. Une onction sans obéissance, qu'est-ce que ça va donner ? Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, puis qui va désobéir, qui va faire n'importe quoi. Ça ne va pas être bon dans l'œuvre de Dieu. Ça n'est pas utile. C'est même contre-productif. Ça va détruire plus que construire. Donc, Dieu dit d'abord, vous avez l'obéissance. Dieu donne le Saint-Esprit, mais à ceux qui lui obéissent. Il nous faut obéir d'abord, et ensuite nous recevons l'onction. On est rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas pour nous-mêmes, frères et sœurs. Ce n'est pas pour qu'on soit dans la joie, mais c'est pour servir. Si on ne sert pas comme Dieu le veut, pourquoi est-ce qu'on serait revêtu de l'onction du Saint-Esprit ? Ça n'aurait pas de sens. Donc tout ça c'est lié. Et je remarque que si Pierre avait une grande autorité spirituelle, il avait aussi une grande soumission à Dieu. Et les deux sont liés. S'il n'avait pas cette grande soumission, s'il n'avait pas dit « il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes », vous voyez la détermination, la soumission, ben, il n'aurait pas l'autorité qui va avec. Donc il y avait la soumission et Dieu lui donnait l'autorité. En conclusion, je termine avec un verset dans l'épître de Jacques qui nous montre l'importance de la soumission à Dieu dans l'autorité spirituelle. Jacques chapitre 4, et verset 7. Jacques, chapitre 4, le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Est-ce que vous croyez que l'on peut avoir une autorité spirituelle sur le diable? Est-ce que c'est possible? Ou est-ce qu'il faut être apôtre? Ou est-ce qu'un croyant peut avoir une autorité sur le diable? Un croyant peut avoir une autorité spirituelle sur le diable dans la mesure où il se soumet à Dieu. Vous avez remarqué comment ça commence ? Soumettez-vous donc à Dieu, c'est le point incontournable. Sinon, le diable, vous pouvez ni lui résister, ni il ne fuira pas loin de vous. Donc, il y a un point premier qui passe avant l'autorité spirituelle, puisque c'est ça notre sujet, c'est la soumission à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Si nous sommes soumis à Dieu, nous résistons au diable, le diable fuira loin de nous. Si nous ne sommes pas soumis à Dieu, c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que c'est l'adversaire qui va avoir une emprise sur nous, qui va avoir un accès. Et cela va nous conduire dans bien des difficultés. Alors, le diable ne pourra rien contre un chrétien qui est vraiment rempli du Saint-Esprit, qui est soumis à la parole de Dieu et qui marche dans l'obéissance et qui est fidèle. Je vous ai laissé ces trois exemples, ces trois, on pourrait dire trois types de vie possibles. Le premier exemple, c'est Saül. On pourrait dire c'est le croyant qui est désobéissant mais qui persévère dans la désobéissance. Alors lui, il a tout raté parce qu'à la fin de sa vie, on voit qu'il a fait le mauvais choix et il a eu une vie malheureuse. Beaucoup de problèmes, il était loin du Seigneur. On a l'exemple de Jonas, qui est l'exemple du croyant qui va désobéir un temps, mais qui se repent et qui revient dans la désobéissance, qui revient dans l'obéissance, pardon. Ça, c'est un cas possible et c'est important qu'on vive ce temps où on revient à Dieu. Et puis le troisième exemple, c'est Pierre, où on voit un chrétien qui préfère obéir, quitte à prendre des risques par rapport à la société. Il faut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, donc il est obéissant envers et contre tout, et il s'interdit de désobéir à Dieu. Et c'est le modèle qu'il nous faut suivre, frères et sœurs, être obéissant envers et contre tout, c'est comme ça que nous aurons, Dieu nous accordera une autorité spirituelle face au monde mauvais. Il y a des attaques, il y a des puissances, on ne peut pas avoir d'autorité si on n'est pas soumis à Dieu. L'autorité vient de Dieu. Si je suis en contradiction avec Dieu ce matin, je n'ai pas d'autorité. Si je suis en harmonie, en accord avec Dieu, l'autorité vient de Dieu et ainsi je peux avancer dans ses voies. On va prier un instant le Seigneur pour terminer. Merci pour ta parole qui nous éclaire, qui nous apprend l'importance à tes yeux, Seigneur, de l'obéissance, car tu veux des chrétiens non seulement qui te louent, qui t'adorent, mais qui ont un cœur sincère, qui sont obéissants, qui sont sincères devant ta face. Et nous te prions pour chacun de nous, si quelqu'un se trouve sur une voie de désobéissance, te prions d'interpeller son cœur, sa conscience, afin qu'il revienne dans de bonnes dispositions, comme tu as pu le faire pour Jonas. Car, Seigneur, tu nous aimes, tu veux le meilleur pour nous, et nous ne voulons pas persévérer sur une voie qui nous égare, qui nous éloigne de toi, et qui est pour nous une voie de perdition. Te prions aussi pour nos frères, pour nos sœurs, qui persévèrent dans l'obéissance malgré les sacrifices, malgré l'opposition qu'ils peuvent rencontrer, malgré les persécutions auxquels ils sont soumis. Merci de les encourager, car nous avons choisi la meilleure part lorsque nous obéissons à ta parole et nous faisons ta volonté. Nous savons que tu étendras ta main et que tu nous délivreras. Tu es le Dieu de victoire, Seigneur, et nous te célébrons et nous te bénissons. Merci d'encourager mes frères, mes sœurs, à tenir ferme et à rester fidèles à ta parole. Dans le nom de Jésus, Amen.